Bonjour à tous. Bienvenue dans la troisième partie de notre série d'émissions consacrée à la naissance de l'idéologie du pouvoir. Pour éclairer notre chemin qui nous mène loin dans le passé, Michel Bompard-Porte, psychanalyste et professeur des universités en psychologie clinique. La seconde émission nous avait laissé au milieu d'un guet, au passage des groupes fraternels ou démocratiques à des groupes de type oligarchique, avec l'apparition de la grande déesse. La grande déesse, une déesse mère. Du point de vue de la psychanalyste, ce passage du fraternel à l'oligarchique constitue une régression. Michel Bompard-Porte.
Donc l'hypothèse en effet que je propose est celle d'une pénurie sexuelle. Bon, maintenant il faut que j'explique pourquoi. C'est-à-dire, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a affaire, pendant un certain temps, à des gens qui sont encore chasseurs-cueilleurs, qui ont des petits villages, je dirais comme tout le monde. C'est pas du tout original d'être chasseur-cueilleur et d'avoir des villages. C'est un classique dans toute l'Europe et en dehors d'Europe. Et donc, pendant un certain temps, ces gens sont en petits groupes, ont leur village parfaitement égalitaire. Et on doit supposer, par rapport aux récits que j'ai fait tout à l'heure des différentes dynamiques collectives possibles, on doit supposer, vu l'égalitarisme, que ces gens ont un fonctionnement qui est majoritairement démocratique. On démarre dans le changement vers 12 000.
12 000 avant notre ère.
Oui, bien sûr. Et donc ces gens, ils ont en plus, leurs maisons sont rondes, enfin circulaires, et elles sont enterrées, ce qui donne, et les archéologues le soulignent, un côté un peu enveloppant à leur maison, un peu maternel, on va dire. Et donc mon hypothèse est que des allures de ce style de fonctionnement, je vois mal comment elle pourrait être fortement hiérarchique. Rien ne va dans ce sens, en tout cas. Donc on a affaire à des groupes de type démocratique. Il est nécessaire que ces petits groupes soient démocratiques parce que il faut quand même être intelligent pour se débrouiller correctement avec pas beaucoup de techniques quand même. Et or, peut-être que c'est intelligible à partir de ce que j'ai déjà raconté. Il va de soi que les groupes où les gens ont le plus de liberté de penser et pensent le mieux, c'est les groupes qui sont le plus démocratiques. Ça se retrouve, par exemple, chez Apple et compagnie. Dans toutes ces institutions, quand il y a les services de recherche sont mis à part, de sorte que les gens puissent vivre de manière parfaitement démocratique, parce que pour faire de la recherche, il faut être dans des conditions de démocratie maximale. Et que les groupes qui vous imposent une pensée, évidemment, ils vous rendent bêtes. Ça va de soi. J'aime beaucoup les pygmées. Les pygmées sont des gens qui ont des inventions fabuleuses. Ils ont une polyphonie sans pareil. Personne ne comprend comment ils se repèrent dans la forêt. On plante un occidental en 3 minutes, il se fait bouffer par quelque chose et d'ailleurs il ne sait plus où il est. Les pygmées, ils savent se déplacer. Enfin bon, ils ont des connaissances qui ne sont pas les nôtres. Et alors, effectivement, pour le coup, c'est un bon exemple d'intelligents qui y arrivent. Parce que les pygmées ont réussi à faire un peu peur, s'adapter un peu, moyennant quoi ils ont pour le moment réussi à conserver à peu près leur culture. Ce qui prouve, de mon point de voir, que outre qu'ils sont que c'est des groupes très démocratiques, qui sont aussi très intelligents et qu'ils y ont réussi. En fait, je pensais à d'autres, à des contre-exemples qui sont tous ces groupes qui ont été décimés jusque très récemment en Amazonie, qui sont des groupes aussi, pour ce qu'on a récupéré, y compris dans leur mythologie, leur conte, des groupes extrêmement raffinés. Sauf que les groupes extrêmement raffinés devant les fusils et devant les exploitants de caoutchouc, ils meurent. Et donc, il y a des tas de groupes comme ça dont j'ai étudié naguère les contes érotiques qui étaient particulièrement intéressants justement pour montrer quel type de groupe était là à l'œuvre et à quel point ces gens étaient précautionneux de garder des régimes très démocratiques et à quel point ils avaient des mesures très précises qui empêchent la thésaurisation, qui empêchent l'agriculture de se mettre en route, quoi. Mais ces gens, ils se sont fait décimer, ils n'existent plus. Mais, donc voilà, les groupes démocratiques, en principe, ils sont bons, mais pas forcément. C'est-à-dire que la force, enfin, dans l'histoire, c'est tout de même assez connu, c'est toujours le plus barbare qui gagne. Celui qui tue le plus, qui, voilà, il gagne. Bon. Donc, on part, quand on va là, au Moyen-Orient, voir comment apparaît l'agriculture, on part de groupes relativement classiques, paléolithiques, chasseurs-cueilleurs, de type démocratique, de manière... Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. C'est pas moi qui invente, en plus. Et ces gens, alors, en effet, ils sont très, très intelligents parce qu'ils ont une infinité, presque, de produits pour se nourrir. Ils connaissent tout, ils mangent presque tout. C'est extrêmement divers. Et donc, on en conclut, c'est pareil, c'est pas moi, qu'ils n'ont pas besoin de travailler. C'est-à-dire que la récolte de la nourriture suffisante se fait en très peu de temps, vu l'extrême diversité des produits qu'ils ont réussi à repérer comme étant des nourritures possibles. Et donc, c'est très marrant parce que ils ont des... Alors, même les archéologues étaient un peu babas, donc ils ont des meules. Donc on se dit, ah, qu'est-ce qu'ils sont donc meulés comme ça? On va regarder, ils meulent l'ocre, c'est-à-dire ils meulent ce qui leur permet de se faire beau. Voilà. Donc on part de cette situation-là. Alors, je ne sais plus, j'ai un chapitre qui s'appelle 12 000, nous avons tout perdu au néolithique, ou je ne sais plus comment, 12 000 ans ça suffit, je ne sais plus. C'est juste que tout le monde est d'accord sur le fait que ces groupes, petits groupes paléolithiques dans leur petit village, avec leur connaissance extrêmement raffinée de leur environnement, sont des gens qui vivent bien. Alors peut-être ont-ils cet ennui littéral que certains ethnologues ont rapporté à propos d'autres groupes comme ça, avec une vie de type paléolithique, qui est que justement, on n'a pas besoin de travailler, mais des fois, on s'ennuie un peu. Donc, le seul souci de ces groupes, c'est que des fois, ils s'ennuient et qu'il faut qu'ils inventent, alors comme les pygmées, des chants, des danses, etc., pour s'entretenir en bonne santé. Et alors, si ces groupes sont de type démocratique et que ça fonctionne, il va de soi qu'ils reconnaissent les autres pour des semblables, qu'ils ont aussi fait le travail de reconnaître l'altérité des sexes, point qu'on n'a peut-être pas du tout évoqué, il faudra peut-être qu'on y vienne, et qu'ils ont une génitalité qui fonctionne. C'est-à-dire, les humains adultes, pour pouvoir fonctionner, il faut aussi qu'ils aient une sexualité qui tourne. Ce que d'ailleurs tous ces groupes primaires signifient tout le temps, c'est tous des groupes dans lesquels la répression sexuelle, ils ne savent même pas ce que ça veut dire, enfin grosso modo. Ils ont des modalités de régulation, mais c'est des modalités de régulation qui n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons. Hein. Donc on dit on a probablement affaire à des groupes démocratiques. Alors avant qu'apparaisse la grande décennie. Alors c'est conforté par tout ce qu'on voit comme art pariétal, qui correspond aux traces que laissent aussi ces gens qu'on appelle natoufiens, on va dire le mot. Hein.
Le natoufien est une culture du Proche-Orient attestée entre 14 000 et 10 000 avant J.C. au Paléolithique final. Les natoufiens occupent un habitat permanent, comme nombre de groupes humains à cette époque, vers la fin du Paléolithique.
Dans les représentations qu'on trouve, les personnages et les animaux et tout ce qui est représenté est dans une horizontalité relative. Ça, c'est un travail de Leroy Gourhan qui est de repérer que dans ces niveaux paléolithiques, toutes les représentations qu'on voit, les humains sont dans la nature, mais ils sont comme tout le monde est à un niveau analogue. Hein. C'est ça qui dit aussi qu'on est dans un régime, on va dire de philosophie de la nature, entre guillemets, évidemment, mais qu'on est dans un régime égalitaire qui fonctionne pas seulement pour les gens, mais qui fonctionne pour leur rapport avec, et ben voilà, si on parle des pygmées ou de n'importe quel groupe chasseur-cueilleur, on sait très bien que ces gens ont un immense respect pour le monde dans lequel ils vivent, que quand ils sont obligés de tuer pour vivre, ils s'excusent, etc. C'est parfaitement connu. Donc voilà, on part de ce truc-là, et quand même, le pas suivant, c'est une énorme déesse mère, et en dessous, des tout petits personnages humains qu'on appelle les orangs. Donc, quand je dis régression, je dis visiblement groupe démocratique relativement adulte. Et à un moment, ces gens inventent de devenir des tout petits devant quelque chose de très grand. C'est ça qui me fait dire, au sens strict, littéral, il y a eu régression collective et invention de cette figure de la toute-puissance, qui est d'ailleurs une toute-puissance pas si bienveillante que ça, parce que la grande déesse, ça va durer tout le temps, hein. Elle est plutôt effrayante, elle est accompagnée par tous les animaux les plus prédateurs qui soient, serpents, lions, enfin ce genre de bêtes, les pires quoi, pour les humains. Et puis, un petit peu plus tard, on va voir apparaître non seulement la grande déesse, mais elle accouche d'un taureau. Et puis, à côté d'elle, dans certains des endroits qui ont été fouillés, il y a des espèces de seins, mais ces seins sont percés par des espèces de crocs. Donc, on a affaire à une figure de divinité toute puissante, de type maternel, très peu bienveillante. Donc, on a l'idée qu'il s'est quand même passé quelque chose qui a rendu ces gens persécutés par quelque chose qu'ils prennent pour tout puissant et qui n'est pas bienveillant à leur égard. Pour faire régresser des gens comme ça, alors qu'on trouve rien comme événement réel, genre climat, je ne sais pas quoi, moi, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait. Enfin, tout le monde ne sait pas, on ne trouve rien. Donc, du coup, l'idée, quelque chose qui fait régresser les gens, c'est l'impossibilité d'avoir une activité sexuelle correcte. Ça, c'est un théorème en psychanalyse. Hein. Si vous empêchez les gens d'avoir un minimum d'activité sexuelle satisfaisante, ben, ils vont se mettre à déconner, à régresser, parce qu'il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose de leur libido. S'ils ne peuvent pas la mettre en génital, ils n'ont pas de 36 solutions, ils sont obligés de redescendre, de régresser. Et donc, pour moi, ça tient la route. Hein, parce que une régression, ça ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit, il faut quelque chose. Si ça ne vient pas par la réalité extérieure, ça vient par le groupe. Et qu'est-ce qui peut faire régresser le groupe? Eh bien, je ne vois rien d'autre quand on est dans un groupe de type démocratique qui n'a pas d'envahisseur, qui a, voilà, il n'y a rien. Ben, il faut que ce groupe-là ait plus pu se réguler correctement. Et la régulation importante, c'est la régulation sexuelle, vu qu'ils ont assez de nourriture.
Des groupes humains sont désormais sur la voie de la maîtrise de la fertilité de la Terre. Cette nouvelle maîtrise peut-elle s'étendre à la fertilité des femmes? Est-ce que, dans le cadre de petits groupes humains, le passage d'une sexualité de régulation sociale, par exemple, à une sexualité de possession, est-ce que ce passage peut aboutir à une pénurie sexuelle?
Je vois pas. Enfin voilà, c'est qu'une hypothèse, mais en même temps, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme facteur qui est cette puissance. Ce qu'on peut imaginer, c'est que c'est des gens qui ont quand même, ils doivent avoir un interdit de l'inceste comme tout le monde, enfin voilà. Et je sais pas, il peut y avoir des situations dans lesquelles ils sont pas très nombreux, donc il y a peut-être des moments où ils n'arrivent plus à trouver tout de genre. C'est un, je sais pas comment. Moi, je peux juste dire, j'ai pas l'idée d'une hypothèse qui ait plus de pertinence quant à cette régression. Mais je ne peux pas non plus inventer comment elle peut bien advenir. Je ne sais pas. Bon, simplement, vous voyez, pour le moment, on a juste décrit du point de vue psychanalytique ce groupe qui passe de sa situation antérieure égalitaire à ce groupe qui passe à une situation régressée où les humains se représente comme soumis à une figure de la toute-puissance. Laquelle figure de la toute-puissance comporte donc la grande déesse et puis un taureau qui va rapidement devenir lui aussi très insistant. Et alors après, la question c'est, bon alors ça a quoi à voir avec l'agriculture? Puisque on revient à la question précédente, Covin dit, les autres disent, voilà, il y a la grande déesse et après il y a l'agriculture. Moi je dis, la grande déesse c'est quand même une régression. Alors maintenant, comment est-ce que ma régression m'amène à des espèces d'hypothèses d'intelligibilité d'une relation possible entre la grande déesse et l'agriculture.
Avant d'aller plus loin, ou plutôt pour aller plus loin, faisons une petite halte et éclairons la question de l'altérité des sexes, question qui ne semble pas poser problème dans les groupes démocratiques.
On a dit, il y a des étapes, et puis les humains, ils ne sont pas très doués pour devenir adultes, enfin, c'est difficile pour eux. Donc un des éléments qui est très très difficile pour les humains quant à devenir adulte, c'est précisément faire le travail de reconnaître l'altérité des sexes. Alors pourquoi est-ce que c'est compliqué ? Ben, on revient sur notre histoire de comment on se développe, nous autres humains. Donc, le nourrisson, on fait l'hypothèse, nous, qui est assez bien argumentée du point de vue de la neurophysiologie y compris, qu'un nourrisson, il se prend pour le tout du monde, ce qu'on va appeler le narcissisme primaire. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, la myélinisation des nerfs n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, quand il lui arrive quelque chose, le temps que ça arrive à son cerveau puis que ça soit reprojeté sur l'endroit, il n'y a plus rien. Donc, c'est forcément que lui. Hein. Donc, il y a une sorte de position relativement, théoriquement, assez bien construite. Quant au fait qu'un nourrisson, ça se prend un peu pour tout du monde, à condition que la mère à côté fonctionne bien, ce qu'on appelle une mère good enough, selon la terminologie anglo-saxonne de Winnicott. Donc, on part sur une position de toute puissance. Quand le petit va s'apercevoir qu'il y a des grands, d'une certaine manière, il va transférer sa toute puissance aux grands, et singulièrement à la mère. Alors, on a déjà dit c'est réaliste, parce qu'en effet, pendant un certain temps, si les grands ne s'occupent pas de lui, ils ont effectivement pouvoir de vie et de mort sur lui. Mais ça englobe autre chose, c'est-à-dire que si on est tout puissant, alors on peut faire des bébés tout seul. D'accord ? Et donc, il y a une fantasmatique qui est générique chez nous tous, qui est que on a une mère qui est toute puissante et c'est elle qui fait les bébés, point. Et donc, quand on sera grand, on pourra faire des bébés tout seul aussi. Bon. Et alors, il y a quelque chose qui arrive soudain et qui est un sacré coup dans le narcissisme en question. Non, tu ne peux pas faire des bébés tout seul. Et c'est ce qu'on va appeler donc, le travail de reconnaître ou pas l'altérité des sexes. C'est en fait reconnaître qu'aucun d'entre nous ne peut faire des bébés tout seul, qu'il faut un autre de l'autre sexe. Et ce travail-là de reconnaissance de l'altérité des sexes, c'est aussi de nouveau partager ce qui a disparu. La toute-puissance, elle est perdue à cet endroit-là. Et donc, vous voyez, c'est du boulot. Donc, quand... du boulot psychique. Comme on a dit, devenir adulte, c'est vraiment du boulot. Et donc, quand on voit apparaître la déesse, de mon point de vue, on a une figure maternelle de la toute-puissance qui est récupérée. Donc, par suite, en principe, le groupe correspondant va avoir un trouble quant à reconnaître l'altérité des sexes. A priori. Hein ? En même temps, il est comme c'est un groupe qui se fabrique un matriarche, il s'est régressé. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'il y ait des chances que l'altérité des sexes soit un peu, ne soit plus existante. Donc l'altérité des sexes, elle n'est pas représentée dans la grande déesse et le taureau. Donc on va se retrouver avec une figure toute puissante et un trouble de la généalogie du côté des pères. Hein, c'est-à-dire c'est comme si il y avait des taureaux fils qu'on va finalement retrouver comme des espèces de figures dans l'archéologie, comme des espèces de figures ancêtres, parce que les taureaux, les crânes des taureaux sont insérés dans les maisons. Et donc ça ressemble un peu à des aïeux, mais c'est des aïeux qui dénient complètement l'altérité des sexes et la généalogie pour de vrai. D'accord ? On se retrouve avec une généalogie, une déesse mère, éventuellement un dieu taureau fils, vu que la déesse en accouche, donc en fait, une déesse mère, dont Covin dit quelque part, je crois, c'est le premier monothéisme de l'humanité, c'est la déesse mère de ces temps-là. Alors, en quoi est-ce que ça peut être compatible, ce truc-là, avec l'apparition de l'agriculture ? Je dis bien compatible, je ne vais pas dire que j'ai un raisonnement de causalité. Eh bien, vous voyez, cette déesse, elle est plutôt du côté méchant. Et on a quelque chose qui est du côté sadomasochisme, on va dire. Alors, de nouveau, c'est un peu technique. Quand on est du côté... Mais sadomasochisme, c'est quand on est petit, c'est le moment d'acquisition des maîtrises musculaires, et donc des maîtrises sphinctériennes. Et donc, c'est tout à fait connu que parmi les maîtrises sphinctériennes, il y en a une qui intéresse beaucoup les petits, c'est la maîtrise anale, parce qu'en plus, ils peuvent se faire des tas de sensations en retenant ou pas les fesses. Donc, on a quelque chose qui va... On a une organisation sexuelle infantile, du point de vue psychanalytique, mais pas que du point de vue psychanalytique, qui concerne la musculature volontaire, les sphincters, la maîtrise et l'avoir, hein, la thésaurisation. Alors, j'y vais un peu franco de ce côté-là, parce que les groupes dont je parlais tout à l'heure, les groupes amazoniens, sont extrêmement attentifs à ridiculiser toute forme de thésaurisation et toute forme de maîtrise et de domination. C'est, je vous disais, ils sont intelligents et ils s'arrangent pour rester démocratiques. Ils s'arrangent pour rester démocratiques, mais ils ont des sacrés instruments, et notamment dézinguer complètement toutes les composantes de ce qu'on appelle en psychanalyse sadisme anal et qui est le fondement de notre culture. Nous, on est tout le temps dans la maîtrise musculaire, l'avoir ou pas, la domination ou pas. Grosso modo, c'est tout le fondement de notre culture. Et donc, ce que je fais comme hypothèse, c'est que cette grande déesse estoro, régression, on n'est plus en génital, la tâche en dessous, enfin la couche en dessous, c'est sadique anal. Donc, je fais l'hypothèse qu'on passe dans un régime qui est plutôt de type sadique anal et que, par conséquent, quelque chose comme la thésaurisation, la domination et la maîtrise peuvent advenir comme étant des préoccupations régressées, nouvelles, de ces groupes. D'accord ? J'ajoute, plus d'altérité des sexes, groupe de type matriarcal, donc je suis en temps cyclique. Si je suis en temps cyclique, je peux avoir quelque chose comme enterrer des graines et elles poussent. Parce que, je veux dire, ils connaissaient le truc, hein. Ils pratiquaient pas, enfin ces gens, c'est comme les pygmées, ils en savent beaucoup, c'est comme tous les Amazoniens. Donc il y a des tas de trucs qu'ils savent et qu'ils font pas. Mais à un moment, ça peut devenir ce qu'ils font parce qu'ils ont régressé et qu'ils n'ont plus la compétence de leur liberté, je veux dire. Vous voyez ? Donc c'est pas, je vais pas dire du tout que j'ai réglé le problème, mais je vais dire que j'ai une configuration générale qui est à peu près intelligible du fait que grande déesse puisse conduire à agriculture. C'est thésauriser ben, par exemple des graines. Et puis quand on les thésaurise, on a l'idée de les planter, ou on thésaurise n'importe quoi. Mais on est sur une position d'accaparer, d'accumuler, de maîtriser. Vous voyez ? C'est-à-dire on est dans quelque chose qui va devenir après, entre guillemets, propriété. Vous voyez ? Alors qu'auparavant, ben, c'est ce qu'on dit avec le roi Gourand, etc. Ces gens, ils ne sont pas dans un rapport de propriété à la nature, les paléolithiques. Ils sont dans un rapport d'échange avec des quasi-semblables. Et c'est juste, voilà, c'est que cette transformation psychique où on fait réapparaître la toute-puissance, elle a des conséquences énormes pour moi, parce que j'ai tout mon boulot de psychologie collective derrière. Et que donc, je peux aligner la série des conséquences de cette régression-là. Vous voyez, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Je ne dis pas du tout qu'on a un rapport de causalité, mais on a quelque chose de vraisemblable et d'intelligible dans l'apparition de l'agriculture. On a quelque chose comme un contexte qui est cohérent avec ça. D'autant qu'on va avoir immédiatement les armes. Hein. Ça on n'avait pas, quoi. Alors, il y a une sorte de déploiement corrélatif de l'armement qui est complètement, complètement spectaculaire. C'est la même couche, hein. L'armement, c'est exactement la même couche sadomasochique que l'ensemble de ce que j'ai dit par ailleurs, vous voyez ? Donc tout ça a une sorte de grande vraisemblance.
Nous voici donc arrivés au moment où les hommes vont perdre leur confiance dans la nature et sans doute aussi leur confiance en eux-mêmes. Le moment où ils vont se tourner vers la maîtrise de la nature et la thésaurisation. Avec l'avoir vient le besoin d'avoir, et avec la maîtrise vient le sentiment de puissance. La capacité de faire, c'est aussi la capacité de défaire, par exemple. Mais si tout le monde est puissant, eh bien, c'est un peu comme si personne ne l'était. Il faut bien que certains le soient plus que d'autres. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode de notre voyage dans le temps, à la recherche des origines du pouvoir et de son idéologie, avec son terrible cortège. À bientôt !